Durant l'année scolaire 2024-2025, 25 élèves de première et de terminale du lycée international Charles de Gaulle de Dijon se sont investis dans un projet pédagogique intitulé « Des archives pour le travail de connaissances et des élèves passeurs de mémoire ».
Encadré par Frédéric Margarito, professeur de lettres, et par Dimitri Wouzel, professeur d'histoire, les élèves ont été dans un premier temps amenés à réaliser un travail de recherche dans les archives privées, locales et nationales, afin de reconstituer les parcours de Juifs dijonnais et de rédiger des feuilles de témoignages pour Yad Vashem.
Ils ont participé à un voyage d'études qui les a menés du musée Pauline aux traces du ghetto de Varsovie, du musée des archives Ringelblum au centre de mise à mort de Treblinka.
Nous vous laissons découvrir les podcasts réalisés par nos élèves qui retracent la vie des familles sur lesquelles ils ont travaillé, Céline Charlot, les familles Rudnik et Kahn, relatent les deux rafles de 1942 en Côte d'Or et nous immergent dans deux lieux d'histoire et de mémoire essentiels, le musée Pauline à Varsovie et Yad Vashem à Jérusalem.
Famille Rudnik. Lettre de Chaim à sa fille Hélène avant d'être déportée à Auschwitz le 22 juin 1943. Chère Hélène, nous partons à l'aube du 23 dans une destination inconnue. Apprends, Makai, cette nouvelle avec courage, comme nous l'avons fait nous-mêmes. Tu peux me croire que nous partons la tête haute et sans récriminer. C'est la destinée. Nous sommes heureux de laisser une petite fille sage et courageuse. Espérons que ceux qui se chargent de toi seront fiers de toi comme nous l'avons toujours été. Donc, Makai, bon courage et remercie tous nos amis de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Assure-les que nous ne l'oublierons jamais. En attendant, ne nous envoyez plus ni colis, ni correspondance. Peut-être qu'un jour pourrons-nous vous écrire, c'est toutefois peu probable. Ne vous en faites donc pas si vous restez sans nouvelles. Bon courage et encore une fois, merci à tous. Nous vous embrassons tous de tout cœur. Quant à toi, petite victime innocente, sois courageuse et studieuse et Dieu t'aidera. Ton papa qui t'adore. Mais qu'est-ce qui les a menés à cette destinée tragique ?
Chaïm est né le 6 février 1901 à Vilno, vit alors située dans l'Empire russe. Il est arrivé en France le 15 septembre 1923 pour étudier. Il suit les cours à la Faculté des sciences de Paris, en licence de mécanique physique et expérimentale, en mathématiques et en physique. Il est diplômé le 7 novembre 1927. Le 15 février 1928, il épouse Heidel, née le 13 janvier 1902, aussi à Vilno. Elle est stagiaire à la Faculté de pharmacie de Paris depuis le 14 février 1925. Quelques années plus tard, le 12 février 1930, ils ont leur fille Hélène à Paris. Puis, ils viennent s'installer à Dijon. Chaïm commence à travailler aux entreprises électriques du centre le 1er octobre 1930 et Heidel est employé dans une pharmacie dijonnaise. Il s'installe alors dans une maison 7 rue des Plantes à Dijon. Ils mènent une vie normale. Tous deux sont fort intelligents et sont très utiles à la société française. Chaïm s'engage même dans l'armée française en tant qu'infirmier le 9 avril 1940 afin de montrer son attachement à son pays d'adoption. Après sa démobilisation, il revient à Dijon pour travailler.
Les Rudnik subissent à partir de l'été 1940 toutes les mesures antisémites mises en place par les ordonnances allemandes et la législation de l'État français. Ils se font recenser, portent l'étoile, et Heidel ne peut plus travailler car les juges font interdiction d'être en contact avec du public. Chaïm et Heidel sont arrêtés à 3 reprises. Une première fois, lors de la rafle des Juifs étrangers en Côte d'Or, le 13 juillet 1942. Mais ils sont libérés sur ordre des autorités allemandes grâce au patron de Chaïm, Roger Bassinet. Il est intervenu auprès des services économiques de la Feldkommandantur de Dijon et a expliqué que la présence de Chaïm était vitale pour achever les commandes allemandes de son entreprise. Ils sont arrêtés une seconde fois, le 9 octobre 1942, et cette fois-ci, ils sont transférés à Drancy, un camp d'internement qui sert de lieu de transfert. À partir de Drancy, les Juifs sont ensuite dirigés vers des camps d'extermination hors frontières. Et encore une fois, grâce à l'intervention du patron de Chaïm, qui explique qu'il est indispensable à l'entreprise, ils sont libérés et retournent à Dijon. Lors de leurs deux arrestations, Hélène est confiée à la famille Jarlot, qui a pu la mettre en sécurité. Le 31 mars 1943, ils sont arrêtés à nouveau par la police française sur ordre du chef de la police allemande de Dijon, et à nouveau transférés à Drancy. Le patron de Chaïm essaye de les faire libérer mais n'y parvient pas. Hélène est confiée à nouveau à leur voisin, la famille Jarlot.
Lettre de Chaïm à Hélène lorsqu'ils se font déporter à Drancy. Ma bien chère petite enfant, on vient de nous annoncer, chère fille, que nous allons partir dans la nuit vers notre destin. Notre première pensée a été pour toi, petite et innocente victime de la cruauté humaine. Bon courage, Makai. Sache que rien n'égale notre amour pour toi. Tu es notre pensée, notre âme et notre vie. Sois courageuse. Te connaissant honnête et brave, nous partons tranquilles sur ton sort. Tu peux, ma fille, être fière de tes parents comme ils ont toujours été de toi. Continue à suivre le droit chemin que nous t'avons tracé et tu seras heureuse et récompensée un jour des peines d'aujourd'hui. Courage, ma fille, confiance et espoir. Reprends tes cours à l'école, habitue-toi à ta nouvelle vie afin que nous retrouvions un jour la bonne et gentille petite fille que nous aimions plus que notre vie même. Inutile de te dire avec quel sentiment je t'embrasse aujourd'hui, mais sois sûre que peu de parents ont eu plus de tendresse pour leurs enfants que nous n'avons eu pour toi. Au revoir, Makai, et espérons à bientôt. Papa qui t'adore et qui pensera toujours à toi. Charles.
Ils restent là-bas pendant 2 mois, dans des conditions horribles, décrites dans leur lettre adressée à leur fille Hélène et à la famille Jarlot. Les derniers arrivent à envoyer de la nourriture et des vêtements à Drancy pour le coup. Malheureusement, le 23 juin 1943, ils sont déportés à Auschwitz, dans le convoi numéro 56. Le trajet dure 3 jours, dans des conditions inhumaines. Les Juifs sont traités comme du bétail, et une partie des déportés meurt avant même d'arriver au camp. Le couple serait décédé le 28 juin, seulement 4 mois après avoir été arrêté. Leur fille, Hélène, toujours accueillie par la famille Jarlot, est arrêtée à son tour le 24 février 1944. Elle se dénonce auprès des autorités puisqu'elle pense rejoindre ses parents. Mais elle est déportée à Auschwitz-Birkenau et aurait été sélectionnée pour le travail forcé, car d'après des témoignages de survivants, elle était encore en vie fin novembre 1944. Elle est ensuite transférée vers un camp en Tchécoslovaquie, mais personne n'a de nouvelles d'elle après.
Ils eurent dans tout leur malheur la chance d'avoir un entourage mobilisé, comme par exemple le patron de Chaïm, Roger Bassinet, qui a pu sauver la famille à 2 reprises. Grâce à lui, ils ont pu passer beaucoup plus de temps avec leurs filles et leurs amis à Dijon. De plus, la famille Jarlot a réellement aidé la famille Rudnik. Ils ont accueilli 3 fois Hélène pour la protéger et lui offrir une stabilité matérielle et émotionnelle.
Nous avons eu la chance de parler au petit-fils de la famille Jarlot, qui a pu nous transmettre une vision plus personnelle.
J'ai découvert beaucoup plus de choses et qui m'ont ému, notamment des lettres que mon père avait conservées dans un tiroir. Il m'en avait jamais parlé. Et à la suite de son décès, comme j'ai dû faire du tri dans tous les papiers, j'ai découvert tous ces documents qui concernaient la petite Hélène. Il y avait notamment beaucoup de plusieurs lettres, mais qui sont émouvantes à en pleurer, quoi, rien qu'en les lisant. Et donc, du coup, j'ai cherché à tout ce que je pouvais trouver sur elle. Voilà. Les Rudnik ont habité dans l'immeuble où habitaient mes grands-parents. Je crois que c'est comme ça qu'ils se sont connus en tant que voisins. C'est-à-dire que mes grands-parents ont été très affectés par ce qui s'est passé. Donc, ils n'en ont jamais parlé. C'était pour eux vraiment quelque chose de très douloureux. Parce qu'ils avaient pris cet enfant chez eux. Donc, il y a des liens qui se sont créés. Il y a des lettres qui montrent qu'il y a des petits mots qu'elle laissait. Tout ça. Elle aimait beaucoup mes grands-parents. Et c'était réciproque. Elle avait une idée en tête, c'était de retrouver ses parents. Et donc, elle est allée elle-même dire qu'elle voulait retrouver ses parents. Et évidemment, c'est ça qui a déclenché son internement et puis son transfert sur les camps. Comme à l'époque, on n'avait pas d'informations, il n'y avait sans doute pas d'informations sur ce que c'était que ces camps d'extermination. Et donc, pour elle, ses parents avaient été mis là et elle pensait pouvoir les retrouver en suivant leur chemin. Les informations qu'on pouvait avoir à l'époque sur ces horreurs, je ne pense pas que quelqu'un, même mes grands-parents, probablement n'ont pas su exactement ce qui allait lui arriver. Je pense qu'elle ne savait pas l'horreur vers laquelle elle se dirigeait. Puis les parents dans les courriers aussi essayaient un peu de la rassurer. Donc, je crois qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle ne pouvait pas savoir ce qui allait lui arriver.
Cette famille est un exemple poignant des injustices et des atrocités qu'ont subies les Juifs lors de l'occupation allemande. Les recherches que nous avons réalisées nous ont permis de mettre un nom et un visage sur ces personnes que les nazis ont voulu déshumaniser.
Durant l'année scolaire 2024-2025, 25 élèves de première et de terminale du lycée international Charles de Gaulle de Dijon se sont investis dans un projet pédagogique intitulé « Des archives pour le travail de connaissances et des élèves passeurs de mémoire ».
Encadré par Frédéric Margarito, professeur de lettres, et par Dimitri Wouzel, professeur d'histoire, les élèves ont été dans un premier temps amenés à réaliser un travail de recherche dans les archives privées, locales et nationales, afin de reconstituer les parcours de Juifs dijonnais et de rédiger des feuilles de témoignages pour Yad Vashem.
Ils ont participé à un voyage d'études qui les a menés du musée Pauline aux traces du ghetto de Varsovie, du musée des archives Ringelblum au centre de mise à mort de Treblinka.
Nous vous laissons découvrir les podcasts réalisés par nos élèves qui retracent la vie des familles sur lesquelles ils ont travaillé, Céline Charlot, les familles Rudnick et Kahn, relatent les deux rafles de 1942 en Côte d'Or et nous immergent dans deux lieux d'histoire et de mémoire essentiels, le musée Pauline à Varsovie et Yad Vashem à Jérusalem.